Bonjour frères et sœurs, c'est toujours, comme tous les dimanches, très heureux de nous retrouver, en tout cas pour partager la parole de Dieu ensemble, pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer. Je voudrais saluer particulièrement toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Voilà, nous voulons vous accueillir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent tous. Vous êtes ici, chez vous, dans la maison du Père. Je pense au livre, au premier livre du prophète Samuel, au chapitre 1, justement, nous nous souvenons de ce récit où Anne, justement la mère du prophète Samuel, était stérile, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et dans ce chapitre, en tout cas le récit qui va amener justement à la conception, il dit que l'Éternel s'est souvenu d'elle. L'Éternel s'est souvenu d'elle. Alors, quand l'Éternel se souvient de nous, cela ne signifie pas qu'il nous avait oubliés. Mais lorsque nous prions et que nous ne voyons pas la main de l'Éternel, et à un moment donné, il se souvient de nous. Alors, se souvenir de nous signifie tout simplement que le moment de l'exaucement est arrivé. L'Éternel s'est souvenu d'Anne, et que s'est-il passé par la suite? Il est dit que l'Éternel est intervenu. Lorsqu'il se souvient, il intervient. Lorsqu'il se souvient de nous, il intervient dans nos vies. Et lorsqu'il intervient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les choses changent. Lorsqu'il intervient, nous devenons. L'Éternel se souvient, l'Éternel intervient et je deviens. Et ça, c'est Dieu qui est capable de faire ça. Lorsqu'il se souvient de nous, ça veut dire qu'il a exaucé et nous devenons la personne qu'il voudrait que nous soyons. Alors que le Seigneur se souvient de chacun d'entre nous aussi ce matin afin qu'il nous transforme et que nous puissions devenir la personne qu'il désire que nous soyons. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici encore à tes pieds pour écouter, tellement que c'est beau d'entendre ta parole. Nous apprenons tellement des choses, tu as beaucoup de choses à nous enseigner. Et c'est ce que tu as dit, je vous enverrai mon esprit. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le transmettra. Oui, Saint-Esprit, prends ce qui est à Christ, lui, notre roi des rois, notre Seigneur. Prends ce qui est à lui et transmets-le nous maintenant. Lorsque Dieu parle, quelque chose se passe toujours. Nous l'avons entendu dimanche passé au sujet du psaume 33. Oui, Seigneur, tu dis et la chose arrive. Voilà ce qui est dit. Oui, Père, manifeste-toi. Parle, Seigneur. Parle. Parle à nos cœurs, parle à nos vies et que ta parole nous transforme. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors, ce soir, je vous propose une réflexion qui va partir du livre de la Genèse, notamment au chapitre 4. Donc, nous lirons Genèse, chapitre 4, les versets 1 à 5, et nous compléterons cette lecture de Genèse 4, 1 à 5, par une autre lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 36 à 39. D'abord, Genèse 4, 1 à 5. Alors, je voudrais tout simplement dire que le message de ce matin va se situer dans la suite de dimanche passé, où nous avons parlé de la circoncision. À travers le message de ce matin, donc, nous allons continuer, si vous voulez, à mettre en évidence ce qui caractérise le christianisme. Le christianisme, qui est notre religion, la religion chrétienne. De sorte que chacun puisse, en quelque sorte, individuellement, répondre à la question suivante, en tout cas à la sortie du culte, hein, chacun pourra répondre à la question suivante. Mon christianisme, ma religion chrétienne, mon christianisme, est-il biblique ou non? Ma religion chrétienne est-elle biblique ou non? Lisons Genèse 4, versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors très souvent, nous ne voyons bien l'importance des choses que lorsqu'elles sont mises en quelque sorte en contraste ou en opposition avec ce qui la dénature. Je reprends, très souvent, nous ne voyons bien l'importance des choses que lorsqu'elles sont mises en opposition ou en contraste avec ce qui les dénature. Alors, pour cette raison, nous allons voir quelques aspects pratiques de ce qui aujourd'hui dénature quoi ? Mais dénature le christianisme, la religion chrétienne, notre religion. Si l'on demandait combien le monde compte-t-il de religions ? Combien le monde compte-t-il de religions ? Alors, je suis sûr que l'on dresserait une liste interminable, une longue liste. Mais que nous a dit le psaume 1 tout à l'heure? Le psaume 1 venait de nous enseigner pour l'être humain sur cette terre, pour tout être humain, il n'y a que deux destinées. Oui, on nous a dit, il n'y a que deux destinées. Combien compte-t-il de religions? On dresserait une liste interminable. Mais en fait, il n'y a jamais eu dans le monde que deux religions. Deux religions. Et ces deux religions-là sont en opposition directe l'une avec l'autre. La première est la religion de la chair. J'en ai parlé un peu dimanche passé, à travers la circoncision. La première est la religion de la chair. Elle propose quoi, cette religion ? Elle propose d'accomplir des œuvres, elle propose d'accomplir des rites, tout ce que vous savez, pour obtenir ou pour attirer la faveur de Dieu. La seconde, c'est la religion de l'esprit, chair, esprit. C'est la religion de l'esprit. Elle propose quoi ? Mais nous le savons, elle propose un salut gratuit, reçu par la foi en Jésus-Christ. Donc la première de ces religions est aussi vieille sur la terre que le péché de l'homme. La religion de la chair. La seconde date de la rédemption, mais attention, la rédemption déjà entrevue justement en Genèse 3. Souvenons-nous, lorsque Dieu, après avoir tué un animal, symbole du sacrifice de Christ, revêt Adam et Ève d'habits de peau. Par conséquent, vous voyez qu'on les trouve toutes deux à l'origine de notre histoire, ces deux religions. Dès le début, justement, elles sont personnifiées, on va dire, dans les actes de deux personnes, Caïn et Abel. Il nous suffit de les considérer un moment pour découvrir les caractères de leur religion et voir qu'elles sont en effet inconciliables, ces deux religions. Commençons par Caïn. Sa religion, celle de la chair, offre en tout cas trois traits distinctifs, trois caractéristiques. Première caractéristique, cette religion prétend que l'homme pécheur, en faisant le bien, est capable d'acquérir une justice qui va faire que Dieu puisse l'agréer. Elle se dit que l'homme, malgré la chute, est capable de faire le bien et elle n'a pas de doute, en tout cas cette religion, à ce niveau-là, l'homme est capable de faire le bien. Notons que cette première caractéristique ne tient pas compte du fait que la justice de Dieu doit nécessairement condamner le pécheur et que cette justice de Dieu est offerte, bien entendu, au pécheur qui s'unit à Christ pour le justifier. Deuxième trait caractéristique, cette religion de la chair ignore, la religion de Caïn, ignore totalement l'état, en tout cas, de perdition, de ruine de l'homme. Elle cherche du bien dans l'homme pour le présenter à Dieu. Pour elle, l'homme, bon, est pécheur sans doute, en tout cas, comme on dit, bien fou qui le nierait, mais il n'est pas irrévocablement perdu, l'homme. Troisième trait, cette religion de Caïn ignore l'état du monde. Elle ne sait pas que le monde est aux yeux de Dieu une chose maudite, qui n'a plus à faire ses preuves et sur laquelle son jugement définitif est déjà prononcé. Voyez, ces trois choses, méconnaissance de Dieu, de l'homme et du monde, se rencontrent chez Caïn. Injuste, il pense que Dieu doit avoir égard à son offrande et la recevoir sur un pied de justice. En vertu de quoi ? En vertu de ses efforts sérieux. Séparé de Dieu par le péché, il a assez de confiance en lui-même pour se présenter devant Dieu avec le résultat de son travail. Il vient apporter à Dieu les fruits d'un sol maudit, comme si le monde pouvait être devant Dieu ce qu'il était avant la chute. En contraste, bien entendu, avec la religion de Caïn, nous trouvons celle d'Abel. La religion d'Abel, bien aimé, n'a aucun trait commun avec celle de Caïn. La religion d'Abel, elle est basée ni sur l'homme, d'ailleurs, qu'elle estime pécheur et perdu, ni sur l'énergie et les ressources qu'il peut offrir, mais elle est basée sur un sacrifice. Dieu lui-même en avait fourni un sacrifice pour revêtir Adam et être coupable. Elle est donc basée d'abord sur la grâce qui accepte le sacrifice. Ensuite, sur la foi qui en saisit la valeur, qui l'offre à Dieu et permet au pécheur de s'approcher à lui comme étant pleinement justifié de tout péché. Voilà ce qui est à la base de la religion de l'esprit qui évolue dans les choses invisibles, seule base reconnue par Dieu. Dans tout cela, vous voyez, ni l'homme, ni la chair n'ont aucune part quelconque. Comme l'Épître aux Galates nous le prouve abondamment. Comme vous pouvez donc le constater, bien-aimés dans le Seigneur, ces deux religions ne peuvent être conciliées. Cependant, l'homme cherche, a toujours cherché inlassablement à les concilier, mais toujours sans succès, bien entendu. Alors, il est intéressant de voir comment le Seigneur Jésus lui-même illustre ce qu'on appelle le changement apporté par sa venue, en particulier à travers deux paraboles que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. Deux paraboles, celle du vieil et du nouvel habit, et celle du vin et des outres. Lisons Luc 5, 36 à 39. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres.
Autrement,
le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.
Le verset 39 est particulièrement important aussi.
Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit quoi? Il dit, ouais, le vieux est bon. Parce que le temps de la vinification, ça a mis du temps. Le vieux est bon.
Bien-aimé dans le Seigneur,
ces paraboles nous montrent de façon frappante comment la présence de Jésus, a introduit une situation d'un caractère particulier et tout à fait nouveau. La présence de Jésus. La première parabole, donc, vieil habit et nouvel habit, indique quoi? Indique la joie que Dieu trouve à revêtir l'homme, mais d'un habit entièrement nouveau et complet, total. Le vieil habit représentait tout ce dont les hommes avaient été pourvus dans, par le judaïsme, sous l'ancienne alliance. Le prophète Jérémie avait annoncé que Dieu, justement, conclurait une alliance nouvelle avec son peuple. En Hébreu 8, où cette prophétie nous est rapportée, il est ajouté au verset 13 ceci, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Fin de citation. Le vieil habit n'avait apporté à l'homme, un, ni justice, deux, ni salut. Tout ce dont Dieu s'était plu à revêtir Israël à l'époque n'était que l'ombre des choses à venir et donc n'apportait pas la vraie substance. Le nouvel habit implique que Dieu se propose de donner quelque chose de tout nouveau à l'homme. Mais cette chose est complète en soi, je dis bien complète en soi. Il n'est donc pas de prendre une partie pour l'ajouter justement à l'ancien système. Personne ne ferait cela dans le domaine des choses matérielles, dit Jésus. Pourtant, le christianisme d'aujourd'hui, tel que nous le voyons autour de nous, est en grande partie le judaïsme d'autrefois dans lequel on a ajouté quoi? Quelques termes du Nouveau Testament, quelques termes chrétiens, quelques expressions chrétiennes. On a pris quoi? On a pris un morceau de l'habit neuf pour le coudre sur le vieux. Mais vous voyez bien que cela ne s'accorde pas, dit Jésus lui-même, à un système qui exclut l'homme dans la chair. On ne peut emprunter aucun élément pour l'associer à un système qui était prévu pour l'homme dans la chair. Le vin nouveau, dit Jésus, avec les vieilles outres. Mais si le vêtement représente ce qui couvre l'homme comme un tout, mais vraiment un tout suffisant dans le nouvel ordre que le Seigneur Jésus a introduit à sa venue, le vin représente quoi? Le vin représente la joie. Le vin représente la bénédiction. Et les outres représentent l'homme lui-même. Pour la joie et la bénédiction de l'homme, évidemment, Jésus-Christ nous a fait connaître Dieu comme Père. Pour la joie et la bénédiction de l'homme, Jésus-Christ nous a fait connaître Dieu comme Père. Il nous fait connaître la grâce, Jésus. Mais, vous voyez, pour jouir de ces choses, il faut être quoi? Il faut être un homme nouveau pour jouir de ces choses. Le vin nouveau, dit Jésus, nécessite des outres neuves. Il faut être né de nouveau par la foi au Seigneur Jésus. En Romains 8, l'apôtre dira aux croyants, vous n'êtes plus dans la chair, mais dans l'esprit. C'est une situation justement toute nouvelle, même si la chair, je l'ai dit dimanche dernier, est toujours là. Vous voyez, cette parabole nous enseigne aussi qu'on ne peut pas introduire les bénédictions chrétiennes dans le système juif. ce serait perdre le vin nouveau, ainsi que les vieilles outres qui se rompent. Personne, nous dit la parole, n'aurait de telles pensées pour ce qui concerne les choses matérielles. Pourtant, n'est-ce pas ce que nous voyons autour de nous? Comment cela se fait-il? Nous en avons l'explication dans ce qui suit. Le verset 39 nous place devant un fait déconcertant. Il nous dit, ayant goûté à la grâce pour notre salut, nous risquons, attention, nous risquons fort bien d'être incapables de l'apprécier vraiment, ou même d'en oublier le caractère. Le risque alors est de devenir à l'ancien système, au système légal, de revenir à l'ancien système. On trouve que le vin vieux est meilleur. Le vin vieux est meilleur. Alors peut-être diriez-vous, cela ne me concerne pas, mais la parole de Dieu dit personne, personne. Tellement l'homme est porté au légalisme, naturellement. Nous avons donc à considérer nos voies. Oui, nous avons à considérer nos voies et nos cœurs et y dénicher toute trace de l'ancien système. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés, qu'en résulterait-il? Tout sera perdu, nous dit Jésus. Le vin nouveau et les vieilles outres, tout sera perdu. Nous devons tenir compte, bien-aimés, de cet avertissement aussi sérieux, afin de ne pas être insensiblement entraînés, justement, de ce côté-là. Le légalisme, la religion mélangée aux choses que le Christ a apportées, a toute sa place dans la religion de la chair, le légalisme, mais pas dans la religion de l'esprit. Pas dans la religion de l'esprit. Après la religion de Caïn et la loi de Moïse, justement, il y a une troisième forme de cette religion de la chair que le Seigneur a annoncée en donnant les paraboles que nous venons de lire. C'est un véritable chef-d'œuvre de Satan pour tromper l'homme. Nous allons parler d'elle et l'Épître aux Galates nous donne en quelque sorte une parfaite illustration. C'est pourquoi nous allons prendre l'exemple des chrétiens de la Galatie. Le piège dans lequel les Galates étaient en train de tomber et qui les avait déjà partiellement atteints était le commencement de cette nouvelle forme de religion de la chair. C'est le christianisme comme religion que nous connaissons si bien aujourd'hui. Voyez, lors de leur conversion, les Galates, comme tous les croyants sous la grâce, avaient reçu l'Esprit, le Saint-Esprit en vertu de la seule foi au Seigneur Jésus. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Leur religion n'était donc pas la religion de la chair, mais celle de l'Esprit. Ils avaient reçu l'Esprit. Ils avaient été délivrés de l'esclavage du péché pour être introduits dans la pleine liberté des enfants de Dieu. Ils avaient reçu par la foi Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Ils étaient sauvés par grâce. La foi en Christ avait été leur point de départ pour entrer dans tous leurs privilèges. Ils étaient enfants de Dieu, jouissant de la liberté, de la grâce et la gloire de leur Sauveur, leur était assurée pour l'avenir. Mais cette scène si belle, voyez, et si simple, avait vite changé. Que s'était-il passé? Eh bien, des docteurs attachés au judaïsme, adversaires acharnés d'une grâce sans mélange, étaient venus leur enseigner qu'il devait faire quoi? Qu'il devait ajouter quelque chose à ce qu'ils avaient reçu à travers le ministère de Paul. Oui, il faut ajouter quelque chose. Ces assemblées de Galatie, sorties des nations païennes, qui n'avaient pas connu la loi, se doutaient bien peu que c'était la religion de la chair qu'on venait leur proposer d'ajouter à la religion de l'esprit. Après avoir commencé par l'esprit, dit l'apôtre Paul, Galates chapitre 3, verset 3, voulez-vous maintenant finir par quoi? Mais par la chair. Les docteurs attachés au judaïsme ne constataient pas la grâce pardon, ne contestait pas la grâce. Il ne contestait pas la grâce, mais parlait de perfectionner le chrétien par la loi. C'était en même temps un moyen de rester attaché au passé, le vieux qui est bon, de ne pas rompre avec la chair, de retenir la loi comme règle de vie et de ne pas tourner le dos justement au monde. La loi, certes donnée par Dieu, devenait en quelque sorte l'instrument de Satan pour détourner le chrétien de Dieu et de Christ. Nous allons juste organiser quelques fêtes, quelques cérémonies chrétiennes. Juste un peu. Les chrétiens d'entre les juifs n'avaient-ils pas fait ou ne faisaient-ils pas encore ces choses? Quelques fêtes seulement, mais où était le mal? Quelques fêtes seulement. Bon, la circoncision était finalement devenue une affaire de fraternité plus étroite. Oui, un peu de fraternité. Ce sont nos frères. Oui, pour se rattacher pendant plus intimement aux frères juifs. Voilà. Allons-y, fraternité. De fait, ce mélange-là, voilà ce qui détruisait la base même du christianisme. Il devenait la base d'un système nouveau qui, après avoir rétabli le vieil homme, n'acceptait plus finalement sa condamnation complète, ni la mort, ni la crucifixion de la chair, ni l'anéantissement de la justice humaine, ni la condamnation définitive du monde. Ce système, si modeste dans ses premières manifestations, a fleuri depuis. Il est la religion, malheureusement, d'aujourd'hui. Il versera bientôt dans ce qu'on appelle l'incrédulité complète, car nous sommes justement à la veille de l'apostasie annoncée par 2 Timothée et aussi la deuxième épître de Pierre. Mais actuellement, dans les systèmes de religion humaine, je parle des systèmes de religion humaine, on ne trouve jamais ce qui caractérise la religion de l'esprit. Qu'est-ce qui caractérise la religion de l'esprit? La fin de l'espoir de l'homme et en sa justice. La fin de l'espoir de dompter la chair ou de l'améliorer. Et la fin aussi de l'espoir en un monde où la justice règne par l'homme. Un chrétien fidèle qui en a compris la portée, la signification, ne peut faire autre chose que de sortir de là. La religion de l'esprit connaît ces choses et s'en sépare. Je dis bien s'en sépare. Comme on traverse la mer Rouge avec impossibilité de retourner en Égypte. Car elle est basée sur quoi? Sur une toute autre connaissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, les vieilles choses sont passées. Voici, toutes choses sont faites. Nouvelle, 2 Corinthiens 5, 17. Voilà pourquoi toute l'épître aux Galates, en plein accord d'ailleurs avec l'épître de Paul aux Romains, est remplie de sujets tels que la justice de Dieu, la justice divine, l'homme entièrement perdu, mis de côté, tous ont péché, la loi qui est sans force, le monde qui est jugé, nouvel homme, un second homme introduit, l'homme en Christ avec lequel le premier homme n'a moralement aucun point commun. En quoi cette déviation est grave, frères et sœurs? L'apôtre explique aux Galates que ne pas reconnaître ces vérités était finalement l'abandon même du christianisme. Voilà pourquoi cette épître si sévère, quoiqu'elle exprime les douleurs profondes d'un amour rempli d'angoisse et qui va même jusqu'à mettre en doute quoi? À mettre en doute la présence de la vie divine chez les Galates. L'apôtre Paul dit dans Galates 4, 19 qu'il souffre encore les douleurs de l'enfantement, comme s'il voulait faire naître de nouveau les chrétiens de Galates. Il souffre les douleurs de l'enfantement. L'apôtre affirme que même le seul fait d'introduire maintenant le principe des ordonnances implique le renoncement de la vérité fondamentale de la mort et de la résurrection de Christ. C'est-à-dire du christianisme. Car elle suppose des hommes vivants dans le monde et non pas morts et ressuscités en Christ. Il se peut que ceux qui sont ainsi entraînés ne mesurent pas vraiment la portée de ce qu'ils font, mais l'ennemi qui les introduit, qui les induit en erreur, le sait parfaitement. Agir ainsi, c'est revenir à des manières de faire qui étaient propres à un temps, la Bible dit, c'est un temps préparatoire. L'ombre des choses à venir, c'est retourner à la chair et au monde. C'est en fait abandonner les privilèges glorieux d'un Christ ressuscité. Bien-aimés, on ne peut garder une vérité qu'en la pratiquant. Mais si la fin doit être telle, la tendance largement répandue est déjà de vivre dans le monde. Cela signifie que le cœur, notre cœur est ici-bas, que l'on s'est installé dans la religion du monde. Mais le chrétien, au contraire, est quelqu'un qui appartient au ciel. Il vit sur la terre, mais il appartient au ciel. C'est ce que nous renions pratiquement avec notre façon de faire. Et notamment le fait d'être mort avec Christ, si l'on accepte ces éléments du judaïsme. On oublie la mort du Seigneur. La seule manière sûre de juger de toute chose, évidemment, est d'introduire Christ. Oui, nous voulons faire des choses. Mettons Christ là-dedans et voyons si c'est compatible avec ce que Christ veut. Allons-y. La question ici est, quelle est la position de Christ quant à la religion du monde? Lorsqu'il vivait ici-bas, il allait sans doute, évidemment, au temple, reconnaissant et pratiquant la loi, justement, bien qu'il fût réellement le Fils de Dieu. Mais où est Christ maintenant et comment y est-il allé? Encore une fois, on ne peut ni avoir ni garder la vérité sans la pratiquer. Et Dieu ne veut pas que nous la possédions autrement. Jésus est la lumière qui brille, qui a brillé dans les ténèbres. Et la vérité ne remplit une personne que si elle agit sur la personne. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Déclarer comprendre ce que signifie être mort avec Christ et persister néanmoins dans la religion du monde, c'est une incohérence profonde. Ceux qui paraissent avoir la vérité, mais refusent de s'y conformer, deviendront bientôt quoi? Les ennemis de cette même vérité, qu'ils ne suivent pas. La religion du monde, frères et sœurs, ne veut pas de la mort de Christ, ni moins encore de la mort avec Christ. La religion du monde ne veut pas. La religion du monde a affaire avec cette création. Elle appartient à ces choses dont on peut dire « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ». C'est la religion du monde. Si vous considérez les choses qui sont destinées à périr à mesure que vous les utilisez, elles sont toutes en rapport avec le monde. Et la chair est capable d'y trouver satisfaction, justement. Si nous ne prenons pas au sérieux le fait que nous sommes unis avec Christ, mort et ressuscité, bien-aimé, notre culte ne serait qu'une espèce d'accommodation au judaïsme, qui était la religion d'un peuple en vie dans le monde. Mais au contraire, toutes ces choses sont entièrement jugées dans la croix comme étant inimitié contre Dieu. Et les chrétiens sont appelés à ne rien avoir à faire avec elle. Nous devons réaliser que la mort de Christ nous a placés dans une position nouvelle et bien plus merveilleuse. Nous avons fini avec tout ce qui est en vie dans le monde, avec tout ce qui a de la valeur aux yeux des gens du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, la communauté des frères moraves, je ne sais pas si ça parle à certains, mais La communauté des frères moraves est une illustration sur comment une communauté chrétienne peut être largement influencée positivement, bien entendu, dès lors qu'elle prend mieux conscience de l'œuvre accomplie à la croix. En effet, cette communauté a été fondée par Nicolas Zinzendorf. Concevait le christianisme essentiellement comme la religion de la croix et du cœur. Pour eux, le chrétien était celui qui entretenait une amitié indéfectible avec l'agneau immolé. Ils avaient un sceau écrit en latin, notre agneau a vaincu, suivons-le. Notre agneau a vaincu. Il n'y a pas de doute à cela, suivons-le. Il se préoccupait beaucoup justement de l'unité entre eux. Jean chapitre 17, la prière sacerdotale de Christ. Il croyait fermement que cette unité reposait sur l'agneau, puisque tous ceux qui sont unis à Jésus, agneau de Dieu, sont un. Jean 17. Zizekov lui-même déclarait que l'agneau immolé constituait le fondement sur lequel s'était érigée cette communauté. Les frères moraves, frères et sœurs, formaient réellement ce qu'on appelle une communauté de célébrants. Ils aimaient chanter. Ils centraient leur culte sur le Christ crucifié. Ils mettaient l'accent sur les blessures et sur le sang de Jésus. Mais ils n'en oubliaient pas pour autant sa résurrection, au point qu'ils ont parfois été désignés du nom de peuple de Pâques. C'est beau. Peuple de Pâques, à cause de leur adoration de l'agneau immolé et ressuscité. Peuple de Pâques, frères et sœurs, il n'y a que deux religions au monde, la religion de la chair et la religion de l'esprit, qui est un enracinement dans l'œuvre de Christ, la religion de l'esprit. Elle est la seule au monde capable de transmettre la vie divine à un individu, car seul Christ a donné sa vie pour que d'autres puissent avoir la vie, et la vie, dit-il, en abondance. Christ est pour nous justement le reflet de sa croix. Vous ne pouvez pas comprendre la personne de Christ tant que vous n'avez pas compris la croix. Il n'y a qu'une possibilité, bien aimé, de devenir chrétien, c'est par la foi en cet événement survenu à Golgotha, une fois pour toutes. Alors, puisque nous sommes aussi justement une communauté de célébrants, je le crois, avec l'agneau immolé au centre, l'apôtre Paul a dit, les circoncis, c'est nous. Oui, nous aussi, nous pouvons le dire. Nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Les circoncis, justement, c'est nous. Donc, nous sommes au moins sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin qui mène au ciel. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Et qu'il nous bénisse tous aussi abondamment. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous a fortement interpellés. Seigneur, nous devons vraiment discerner ce que nous entreprenons, ce que nous faisons, au point vraiment d'introduire Christ dans tout ce que nous voulons faire, pour voir si c'est vraiment compatible avec ce que le Christ nous demande. En réalité, l'effort que nous avons à faire, c'est vraiment de laisser Christ s'imprégner de nous, vivre à travers nous et se manifester à travers nous. En réalité, pour moi, il n'y a qu'une seule personne qui soit capable de vivre la vie chrétienne à laquelle Dieu nous a appelés, mais c'est Christ. Donc si Christ habite en nous vraiment comme il est dit, lui est capable de vivre la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Seigneur, vraiment Jésus, remplis nos vies de ta présence et garde-nous loin de la tentation du mélange, le mélange de genre qui nous guette, qui nous poursuit à chaque instant. Seigneur, garde-nous de cette tentation de revenir à l'ancien, au vieux, pour dire que le vieux était bon. Non, Seigneur, garde-nous. Tu as fait toutes choses nouvelles dans nos vies. Tu es venu apporter quelque chose de particulièrement nouveau. Et donne-nous de nous attacher justement à ce que tu es venu apporter. Sans aucun mélange, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole qui nous interpelle, qui nous enseigne, qui nous instruit et qui veut que nous puissions avancer. Nous te bénissons pour cela. Et bénis encore chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à Nicolas Ferre. Oui, c'est le temps des annonces, donc je laisse la place à Véronique.
Chez Mireille Burdi. À 14h30 ici à l'église, il y aura l'étude de l'épître de Jacques. Ce sera la seule épître de la semaine puisque jeudi est en férié, donc on se retrouve tous lundi. Mardi, chaîne de prière pour la conversion des âmes dans nos familles, le passage biblique du mois de mai et Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Voilà, verset 28 à 32. 14h30 études bibliques à Genonos chez Annie. Mercredi, 14h30 groupe de maison en Aubagne chez Léa. Et à 20h, groupe de maison en Aubagne chez Christine et Jean-Pierre Autric. Jeudi à 18h30, ce sera une réunion de prière ici à l'église. Vendredi, 7h30 à 9h également, réunion de prière à l'église. Et à 18h30, la répétition des chants du culte. Samedi à 9h30, donc dans le local d'Oasis, il y aura une réunion de prière suivie d'une évangélisation sur la place d'Aubagne. Dimanche à 10h, culte à l'église. J'ai mis le partage de la Sainte-Seine, mais je ne suis pas sûre qu'il y en aura, donc à voir. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il y aura la Sainte-Seine, puisque à partir de jeudi, débutera le synode des églises de notre union à la Rosette. Donc, ils participent avec les deux délégués. C'est Roland et moi, les deux délégués. Nous avons la chance de pouvoir accompagner Yvon. Et donc, voilà, du jeudi 18 au dimanche 21 mai. Voilà. Également une annonce, une date à noter dans votre agenda. Le dimanche 25 juin, nous aurons notre culte famille. Donc, ce sera un culte centré sur les enfants. Donc, je sais qu'il y a des choses qui se préparent. Voilà, un culte famille. Et ce culte sera suivi par un repas fraternel qui se fera non pas à l'église, comme d'habitude, mais à Roquefort-l'Abbé-Doux, chez nous. Voilà, on partagera un repas dans le jardin. Voilà, il y a un covoiturage, mais voilà. Au moment venu, on pourra organiser un covoiturage pour ceux qui auraient du mal à aller jusque là. Voilà. Merci.
Je voudrais juste ajouter des annonces que dimanche prochain, c'est notre frère Marc Gemetto qui apportera le message de la prédication. Voilà, le culte sera assuré par le groupe de louanges, Alain et les autres. Voilà, je suis sûr que le Seigneur vous bénira en tout cas pour ce temps de culte. Nous serons à la Rosette. Merci.
Nous allons avoir la prière d'intercession dans le dernier chant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour notre Église, afin que tu l'aides à grandir en toi. Nous voulons te prier pour les familles représentées. Permets qu'il y ait l'union dans les familles. Nous voulons te présenter tout particulièrement les enfants. Seigneur, permets qu'ils viennent à toi le plus tôt possible, qu'ils s'engagent pour toi. Garde-les des mauvaises fréquentations, Seigneur, des mauvaises habitudes. Nous te prions aussi pour ceux qui ont des examens à passer, pour que tu sois auprès d'eux, Seigneur, et qu'ils ne perdent pas leurs moyens. Nous voulons te prier, Seigneur, pour les personnes qui sont malades. Mets ta main guérissante sur elles. Pour les personnes qui sont seules, qui sont isolées, Seigneur, permets qu'elles soient visitées et visitées par toi. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ton Église dans le monde qui est persécutée. Seigneur, soutiens ton Église et qu'elle te glorifie. Nous voulons aussi te prier pour notre pays, pour ceux qui le dirigent, pour que tu leur donnes, Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence pour prendre de bonnes décisions. Et Seigneur aussi, permets qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur, et prendre la décision de te servir. Nous voulons te prier pour notre monde, pour les endroits où il y a la guerre. Tu vois, Seigneur, la souffrance. Prends pitié de ceux qui souffrent. Et, oui, Seigneur, et nous te prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Nous avons terminé par le chant « Je me confie en toi » et ensuite il y aura le chant.